Henri Poincaré, dernière pensée. Chapitre 5, les mathématiques et la logique. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'exposer certaines idées sur la logique de l'infini, sur l'emploi de l'infini en mathématiques, sur l'usage qu'on en fait depuis Cantor. J'ai expliqué pourquoi je ne regardais pas comme légitime certains modes de raisonnement dont divers mathématiciens éminents avaient cru pouvoir se servir. Je m'attirais naturellement de vertes répliques. Ces mathématiciens ne croyaient pas s'être trompés, ils croyaient avoir eu le droit de faire ce qu'ils avaient fait. La discussion s'éternisa, non pas que l'on vit sans cesse surgir de nouveaux arguments, mais parce qu'on tournait toujours dans le même cercle, chacun répétant ce qu'il venait de dire, sans paraître avoir entendu ce que l'adversaire avait dit. À chaque instant, on m'envoyait une nouvelle démonstration du principe contesté, pour se mettre, disait-on, à l'abri de toute objection. Mais cette démonstration, c'était toujours la même, à peine maquillée. On n'est donc arrivé à aucune conclusion. Si je disais que j'en ai été étonné, je donnerais une triste idée de ma pénétration psychologique. Dans ces conditions, convient-il de répéter une fois de plus les mêmes arguments auxquels je pourrais peut-être donner une forme nouvelle, mais auquel je ne pourrais rien changer dans le fond, puisqu'il me semble qu'on n'a même pas essayé de les réfuter. Il me semble préférable de rechercher quelle peut être l'origine de cette différence de mentalité qui engendre de telles divergences de vues. Je viens de dire que ces divergences irréductibles ne m'avaient pas étonné, que je les avais prévus dès la première heure, mais cela ne nous dispense pas d'en chercher l'explication. On peut prévoir un fait, à la suite d'expériences répétées, et être pourtant très embarrassé pour l'expliquer. Cherchons donc à étudier la psychologie des deux écoles adverses, à un point de vue purement objectif, comme si nous étions nous-mêmes placés en dehors de ces écoles, comme si nous décrivions une guerre entre deux fourmilières. Nous constaterons d'abord qu'il y a chez les mathématiciens deux tendances opposées dans la façon d'envisager l'infini. Pour les uns, l'infini dérive du fini. Il y a un infini parce qu'il y a une infinité de choses finies possibles. Pour les autres, l'infini préexiste au fini. Le fini s'obtient en découpant un petit morceau dans l'infini. Un théorème doit pouvoir être vérifié, mais comme nous sommes nous-mêmes finis, nous ne pouvons opérer que sur des objets finis. Lors donc même que la notion d'infini joue un rôle dans l'énoncé du théorème, il faut que, dans la vérification, il n'en soit plus question, sans quoi cette vérification serait impossible. Je prendrai comme exemple des théorèmes comme ceci. La suite des nombres premiers est illimitée. La série somme des 1 sur n carré est convergente, etc. Chacun d'eux peut se déduire par des inégalités ou des égalités où ne figurent que des nombres finis. Ces théorèmes participent de l'infini non pas parce qu'une des vérifications possibles en participe elle-même, mais parce que les vérifications possibles sont en nombre infini. En énonçant le théorème, j'affirme que toutes ces vérifications réussiraient. Bien entendu, on ne les fait pas toutes. Il y en a que j'appelle possibles parce qu'elles n'exigeraient qu'un temps fini, mais qui seraient pratiquement impossibles parce qu'elles demanderaient des années de travail. Il me suffit qu'on puisse concevoir quelqu'un d'assez riche et d'assez fou pour la tenter en payant un nombre suffisant d'auxiliaires. La démonstration du théorème a précisément pour but de rendre cette folie inutile. Un théorème qui ne comporte aucune conclusion vérifiable a-t-il un sens? Ou plus généralement, Un théorème quelconque a-t-il un sens en dehors des vérifications qu'il comporte? C'est ici que les mathématiciens diffèrent. Ceux de la première école, ceux que j'appellerais les pragmatistes, puisqu'il faut bien leur donner un nom, répondent que non. Et quand on leur apporte un théorème sans leur donner un moyen de le vérifier, ils n'y voient que de la bouillie pour les chats. Ils ne veulent envisager que des objets qui peuvent être définis en un nombre fini de mots. Quand, dans un raisonnement, on leur parle d'un objet A, satisfaisant à certaines conditions, ils sous-entendent un objet qui satisfait à ces conditions, quels que soient d'ailleurs les mots dont on se servira pour achever de le définir, pourvu que ces mots soient en nombre fini. Ceux de l'autre école, que j'appellerai pour abréger les cantoriens, ne veulent pas admettre cela. Un homme, quelque bavard qu'il soit, ne prononcera jamais dans sa vie plus d'un milliard de mots. Et alors, allons-nous exclure de la science les objets dont la définition contienne 1 milliard et 1 mot? Et si nous ne les excluons pas, pourquoi exclurions-nous ceux qui ne peuvent être définis que par une infinité de mots, puisque la construction des uns est comme celle des autres, au-dessus de la portée de l'humanité? Cet argument laisse bien entendu les pragmatistes froids. Quelque bavard que soit un homme, l'humanité sera plus bavarde encore, et comme nous ne savons pas combien de temps elle durera, nous ne pouvons pas limiter d'avance le champ de ses investigations. Nous savons seulement que ce champ restera toujours limité, et quand même nous pourrions fixer la date de sa disparition, il y a d'autres astres qui pourraient reprendre l'œuvre inachevée sur la Terre. Les pragmatistes n'auraient d'ailleurs pas de répugnance à imaginer une humanité beaucoup plus bavarde que la nôtre, mais conservant encore quelque chose d'humain. Il se refuse à raisonner sur l'hypothèse de je ne sais quelle divinité infiniment bavarde et susceptible de penser une infinité de mots en un temps fini. Et les autres pensent au contraire que les objets existent dans une sorte de grand magasin, indépendamment de toute humanité ou de toute divinité qui pourrait en parler ou y penser. Que dans ce magasin, nous pouvons faire notre choix, que sans doute nous n'avons pas assez d'appétit ou assez d'argent pour tout acheter, mais que l'inventaire du magasin est indépendant des ressources des acheteurs. Et de ce malentendu initial résultent toutes sortes de divergences de détails. Prenons pour exemple le théorème de Zermelo, d'après lequel l'espace est susceptible d'être transformé en un ensemble bien ordonné. Les cantoriens seront séduits par la rigueur, réelle ou apparente, de la démonstration. Les pragmatistes lui répondront « Vous dites que vous pouvez transformer l'espace en un ensemble bien ordonné. Eh bien, transformez-le. Ce serait trop long. Alors, montrez-nous au moins que quelqu'un qui aurait assez de temps et de patience pourrait faire la transformation. » Non, nous ne le pouvons pas parce que le nombre des opérations à faire est infini. Il est même plus grand que Aleph zéro. Pouvez-vous montrer comment on pourrait exprimer en un nombre fini de mots la loi qui permettrait d'ordonner l'espace? Non. Et les pragmatistes concluent que le théorème est dénué de sens, ou faux, ou tout au moins indémontré. Les pragmatistes se place au point de vue de l'extension et les cantoriens au point de vue de la compréhension. Quand il s'agit d'une collection finie, cette distinction ne peut intéresser que les théoriciens de la logique formelle, mais elle nous apparaît comme beaucoup plus profonde en ce qui concerne les collections infinies. Si on se place du point de vue de l'extension, une collection se constitue par l'adjonction successive de nouveaux membres. Nous pouvons, en combinant les objets anciens, construire des objets nouveaux, puis avec ceux-ci des objets encore plus nouveaux. Et si la collection est infinie, c'est parce qu'il n'y a pas de raison pour s'arrêter. Au point de vue de la compréhension, au contraire, nous partons de la collection où se trouvent des objets préexistants qui nous apparaissent d'abord comme indistincts, mais nous finissons par reconnaître quelques-uns d'entre eux parce que nous y collons des étiquettes et que nous les rangeons dans un des tiroirs. Mais les objets sont antérieurs aux étiquettes. Et la collection existait quand même, il n'y aurait pas de conservateur pour la classer. Pour les cantoriens, la notion de nombre cardinal ne comporte pas de mystère. Deux collections ont le même nombre cardinal quand on peut les ranger dans les mêmes tiroirs. Rien de plus facile puisque les deux collections préexistent et qu'on peut regarder également comme préexistante une collection de tiroirs indépendante des conservateurs chargés d'y ranger les objets. Pour les pragmatistes, il n'en va pas de même. La collection ne préexiste pas. Elle s'enrichit chaque jour. De nouveaux objets s'y adjoignent sans cesse, qu'on aurait pu définir sans s'appuyer sur la notion des objets déjà antérieurement classés et sur la façon dont ils sont classés. À chaque nouvelle acquisition, le conservateur peut être forcé de bouleverser ses tiroirs pour trouver le moyen de la caser. On ne saura jamais si deux collections peuvent se ranger dans les mêmes tiroirs, puisqu'on peut toujours craindre qu'il soit nécessaire de les déranger. Par exemple, les pragmatistes n'admettent que les objets qui peuvent être définis en un nombre fini de mots. Les définitions possibles, étant exprimables par des phrases, peuvent toujours être numérotées avec des numéros ordinaires, depuis 1 jusqu'à l'infini. À ce compte, il n'y aurait qu'un seul nombre cardinal infini possible, le nombre Aleph 0. Pourquoi disons-nous alors que la puissance du continu n'est pas celle des nombres entiers? Oui, étant donné tous les points de l'espace, que nous savons définir avec des mots en nombre fini, nous savons imaginer une loi exprimable elle-même par un nombre fini de mots qui les fait correspondre à la suite des nombres entiers. Mais considérons maintenant des phrases où figure la notion de cette loi de correspondance. Tout à l'heure, elle n'avait aucun sens puisque cette loi n'était pas encore inventée et elle ne pouvait servir à définir des points de l'espace. Maintenant, elles ont acquis un sens. Elles vont nous permettre de définir de nouveaux points de l'espace. Mais ces nouveaux points ne trouveront plus de place dans la classification adoptée, ce qui nous contraindra à la bouleverser. Et c'est cela que nous voulons dire, d'après les pragmatistes, quand nous disons que la puissance du continu n'est pas celle des nombres entiers. Nous voulons dire qu'il est impossible d'établir, entre ces deux ensembles, une loi de correspondance qui soit à l'abri de cette sorte de bouleversement, au lieu qu'on peut le faire, par exemple, quand il s'agit d'une droite et d'un plan. Alors, les pragmatistes ne sont pas certains qu'un ensemble quelconque ait à proprement parler un nombre cardinal, ou bien qu'étant donné deux ensembles, on puisse toujours savoir s'ils ont la même puissance, ou si l'un a une puissance plus grande que l'autre. Ils en viennent ainsi à douter de l'existence d'Aleph 1. Une autre source de divergence vient de la façon dont de concevoir la définition. Il y a plusieurs sortes de définitions. La définition directe, qui peut se faire soit per genus proximum et differentiam specificam, soit par construction. Notons en passant qu'il y a des définitions incomplètes, en ce sens qu'elles définissent non pas un individu, mais un genre tout entier. Elles sont légitimes, et ce sont même celles dont on fait le plus fréquemment usage. Mais d'après les pragmatistes, on doit sous-entendre l'ensemble des individus qui satisfont à la définition et qu'on pourrait achever de définir en un nombre fini de mots. Pour les cantoriens, cette restriction est artificielle et dénuée de signification. S'il n'y avait que des définitions directes, l'impuissance de la logique pure ne saurait être contestée. On pourrait alors, dans une proposition quelconque, remplacer chacun des termes par sa définition. Quand on aurait terminé cette substitution, ou bien la proposition ne se réduirait pas à une identité, et alors elle ne serait pas susceptible d'une démonstration purement logique, ou bien elle se réduirait à une identité, et alors elle ne serait qu'une tautologie, plus ou moins habilement déguisée. Mais nous avons encore une autre sorte de définition, les définitions par postulat. Généralement, nous saurons que l'objet à définir appartient à un genre. Mais quand il s'agira d'énoncer la différence spécifique, on ne l'énoncera pas directement, mais à l'aide d'un postulat auquel l'objet défini devra satisfaire. C'est ainsi que les mathématiciens peuvent définir une quantité x par une équation explicite, x égale f de y, ou par une équation implicite, f de xy égale 0. La définition par postulat n'a de valeur que quand on a démontré l'existence de l'objet défini. Dans le langage mathématique, cela veut dire que le postulat n'implique pas de contradiction. On n'a pas le droit de négliger cette condition. Il faut ou bien admettre l'absence de contradiction, comme une vérité intuitive, comme un axiome, par une sorte d'acte de foi, mais alors il faudra se rendre compte de ce qu'on fait et savoir qu'on a allongé la liste des axiomes indémontrables. Ou bien il faut construire une démonstration en règle, soit par l'exemple, soit par l'emploi du raisonnement par récurrence. Ce n'est pas que cette démonstration soit moins nécessaire quand il s'agit d'une définition directe, mais elle est généralement plus facile. Certains pragmatistes seront plus exigeants. Pour qu'ils regardent une définition comme légitime, il ne leur suffira pas qu'elle ne conduise pas à des contradictions dans les termes, il leur faudra encore qu'elle ait un sens, à leur point de vue particulier que j'ai cherché à définir plus haut. Quoi qu'il en soit, la logique restera-t-elle stérile après l'introduction des définitions par postulat? Nous ne pouvons plus, étant donné une proposition, y remplacer un terme par sa définition. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'éliminer ce terme entre la proposition et le postulat qui lui sert de définition. Si cette opération, faite d'après ce qu'on pourrait appeler les règles de l'élimination logique, ne nous conduit pas à une identité, c'est que la proposition est indémontrable par la logique pure. Si elle conduit à une identité, c'est que la proposition n'est qu'une tautologie. Nous n'avons rien à changer à nos conclusions de tout à l'heure. Mais il y a une troisième sorte de définition, ce qui est l'origine d'un nouveau malentendu entre les pragmatistes et les cantoriens. Ce sont encore des définitions par postulat, mais le postulat est ici une relation entre l'objet à définir et tous les individus d'un genre dont l'objet à définir est supposé faire lui-même partie, ou bien dont sont supposés faire partie des êtres qui ne peuvent être eux-mêmes définis que par l'objet à définir. C'est ce qui arrive si nous posons les deux postulats suivants. X, objet à définir, a telle relation avec les individus du genre G. X fait partie du genre G. Ou bien les trois postulats suivants. X a telle relation avec tous les individus du genre G. Y a telle relation avec X. Y fait partie de G. Pour les pragmatistes, une pareille définition implique un cercle vicieux. On ne peut définir grand X sans connaître tous les individus du genre G, et par conséquent sans connaître X, qui est un de ces individus. Les cantoriens n'admettent pas cela. Le genre G nous est donné, et par conséquent nous en connaissons tous les individus. La définition a pour but seulement de discerner parmi ces individus celui qui a, avec tous ses camarades, la relation énoncée. Non seulement leurs adversaires, la connaissance du genre, ne vous fait pas connaître tous ces individus, elle vous donne seulement la possibilité de les construire tous, et plutôt d'en construire autant que vous voudrez. Ils n'existeront qu'après qu'ils auront été construits, c'est-à-dire après qu'ils auront été définis. X n'existe que par sa définition, qui n'a de sens que si l'on connaît d'avance tous les individus de G et en particulier X. Il ne servirait à rien de dire, ajoute-t-il, que ce n'est pas un cercle vicieux de définir grand X par sa relation avec grand X, que cette relation est en somme un postulat qui peut servir à définir X, car il faudrait établir au préalable que ce postulat n'implique pas de contradiction. Mais ce n'est pas d'ordinaire ce qu'on fait dans ce genre de définition. On démontre d'abord que quel que soit le genre G, dont tous les individus sont supposés connus, il existe un être grand X qui a avec ce genre G la relation en question, c'est-à-dire que l'existence de cet être n'entraîne pas la contradiction. Il resterait à faire voir qu'il n'y a pas de contradiction entre l'existence de cet être et l'hypothèse que cet être fait partie du genre. Le débat pourrait se poursuivre longtemps, mais le point que je voudrais mettre en évidence, c'est que si ce genre de définition était admis, la logique ne serait plus stérile. Et la preuve, c'est qu'on a bâti de la sorte une foule de raisonnements destinés à démontrer des propositions qui n'étaient nullement des tautologies, puisqu'il y a des gens qui se demandent si elles ne sont pas fausses. Et alors, on admire le pouvoir que peut avoir un mot. Voilà un objet dont on n'aurait rien pu tirer tant qu'il n'était pas baptisé. Il a suffi de lui donner un nom pour qu'il fît des merveilles. Comment cela se fait-il? C'est parce qu'en lui donnant un nom, nous avons affirmé implicitement que l'objet existait, c'est-à-dire était pur de toute contradiction, et qu'il était entièrement déterminé. Or, cela, nous n'en savons rien à ce que prétendent les pragmatistes. Quel est donc le mécanisme qui rend la démonstration féconde? C'est bien simple. On nie la proposition à démontrer et on montre qu'on se trouve en contradiction avec l'existence de l'objet X. Et cela n'est légitime que si l'on est certain de cette existence. Et d'autre part, si l'on sait que l'objet est entièrement déterminé. Et en effet, si X se déduit du genre G par la définition, que ensuite on complète le genre G en y adjoignant l'objet X et les autres individus du même genre qui peuvent en dériver, que si l'on appelle G' le genre ainsi complété et X', ce qui se déduirait de G' par la définition de la même façon que X se déduit de G, il faut qu'on soit sûr que X' est identique à X. S'il n'en était pas ainsi, et qu'en niant la proposition à démontrer, on fut conduit à deux énoncés contradictoires, φ1 de X égale 0, φ2 de X égale 0, comment saurait-on que c'est bien le même X qui figure dans l'une et l'autre? Si X figurait dans l'une et X' dans l'autre, les deux propositions s'écriraient φ1 de X égale 0, φ2 de X' égale 0, et ne seraient plus contradictoires en général. Pourquoi donc les pragmatistes font-ils cette objection? C'est parce que le genre G ne leur apparaît que comme une collection susceptible de s'accroître indéfiniment à mesure qu'on construira de nouveaux individus possédant leur caractère convenable. C'est ainsi que G ne peut jamais être posé ne variatur, comme le font les cantoriens, et qu'on n'est pas sûr que, par de nouvelles annexions, il ne deviendra pas G'. Je me suis efforcé d'expliquer aussi clairement et aussi impartialement que j'ai pu en quoi consistent les divergences entre les deux écoles de mathématiciens. Et il me semble que nous en apercevons déjà la véritable cause. Les savants des deux écoles ont des tendances mentales opposées. Ceux que j'ai appelés les pragmatistes sont des idéalistes. Les cantoriens sont des réalistes. Il y a une chose qui nous confirmera dans cette manière de voir. Nous voyons que les cantoriens, qu'on me passe ce vocable commode, bien que je veuille parler ici non des mathématiciens qui suivent la voie ouverte par Cantor, ni peut-être même des philosophes qui se réclament de lui, mais ceux qui ont les mêmes tendances d'une façon indépendante. Que les cantoriens, dis-je, parlent constamment d'épistémologie, c'est-à-dire de la science des sciences. Et il est bien entendu que cette épistémologie est tout à fait indépendante de la psychologie, c'est-à-dire qu'elle doit nous apprendre ce que seraient les sciences s'il n'y avait pas de savants. Que nous devons étudier les sciences, non sans doute en supposant qu'il n'y a pas de savants, mais du moins sans supposer qu'il y en a. Ainsi, non seulement la nature est une réalité indépendante du physicien qui pourrait être tenté de l'étudier, mais la physique elle-même est aussi une réalité qui subsisterait s'il n'y avait pas de physicien. C'est bien là du réalisme. Et pourquoi les pragmatistes refusent-ils d'admettre des objets qui ne pourraient être définis par un nombre fini de mots? C'est parce qu'ils considèrent qu'un objet n'existe que quand il est pensé, et qu'on ne saurait concevoir un objet pensé indépendamment d'un objet pensant. C'est bien là de l'idéalisme. Et comme un sujet pensant, c'est un homme, ou quelque chose qui ressemble à l'homme, que c'est par conséquent un être fini, l'infini ne peut avoir d'autre sens que la possibilité de créer autant d'objets finis que l'on veut. Et alors, on peut faire une remarque assez curieuse. Les réalistes se placent d'ordinaire du point de vue physique. Ce sont les objets matériels ou les âmes individuelles ou ce qu'ils appellent les substances dont ils affirment l'existence indépendante. Le monde pour eux existait avant la création de l'homme, avant même qu'il y ait des êtres vivants. Il existerait encore même s'il n'y avait pas de Dieu ni aucun sujet pensant. Cela, c'est le point de vue du sens commun, et ce n'est que par la réflexion qu'on peut être amené à l'abandonner. Les partisans du réalisme physique sont en général finitistes. Dans la question des antinomies kantiennes, ils tiennent pour les thèses. Ils croient que le monde est limité. Telle est par exemple la manière de voir de M. Evelyn. Au contraire, les idéalistes n'ont pas les mêmes répugnances et sont tout prêts à souscrire aux antithèses. Mais les kantoriens sont réalistes. Même en ce qui concerne les entités mathématiques, ces entités leur paraissent avoir une existence indépendante. Le géomètre ne les crée pas, il les découvre. Ces objets existent alors, pour ainsi dire, sans exister, puisqu'ils se réduisent à de pures essences. Mais comme, par nature, ces objets sont en nombre infini, les partisans du réalisme mathématique sont beaucoup plus infinitistes que les idéalistes. Leur infini n'est plus un devenir, puisqu'il préexiste à l'esprit qui le découvre, qu'il l'avoue ou qu'il le nie. Il faut donc qu'il croie à l'infini actuel. On reconnaît là la théorie des idées de Platon. Et cela peut paraître étrange de voir Platon classé parmi les réalistes. Rien n'est pourtant plus opposé à l'idéalisme contemporain que le platonisme, bien que cette doctrine soit également très éloignée du réalisme physique. Je n'ai jamais connu de mathématicien plus réaliste au sens platonicien qu'Hermite. Et pourtant, je dois avouer que je n'en ai pas rencontré de plus réfractaire au kantorisme. Il y a là une apparente contradiction, d'autant plus qu'il répétait volontiers « Je suis anti-kantorien parce que je suis réaliste ». Il reprochait à Cantor de créer des objets au lieu de se contenter de les découvrir. Sans doute, à cause de ses convictions religieuses, considérait-il comme une sorte d'impiété de vouloir pénétrer de plein pied dans un domaine que Dieu seul peut embrasser et de ne pas attendre qui nous en révèle un à un les mystères. Il comparait les sciences mathématiques aux sciences naturelles. Un naturaliste qui aurait cherché à deviner le secret de Dieu, au lieu de consulter l'expérience, lui aurait paru non seulement présomptueux, mais irrespectueux pour la majesté divine. Et les kantoriens lui paraissaient vouloir agir de même en mathématiques. Et c'est pourquoi, réaliste en théorie, il était idéaliste en pratique. Il y a une réalité à connaître, et elle est extérieure à nous et indépendante de nous, mais tout ce que nous pouvons en connaître dépend de nous et n'est plus qu'un devenir, une sorte de stratification de conquêtes successives. Le reste est réel, mais éternellement inconnaissable. Le cas d'Hermite est d'ailleurs isolé, et je ne m'y étends pas davantage. De tout temps, il y a eu en philosophie des tendances opposées, et il ne me semble pas que ces tendances soient sur le point de se concilier. C'est sans doute parce qu'il y a des âmes différentes et qu'à ces âmes, nous ne pouvons rien changer. Il n'y a donc aucun espoir de voir l'accord s'établir entre les pragmatistes et les kantoriens. Les hommes ne s'entendent pas parce qu'ils ne parlent pas la même langue et qu'il y a des langues qui ne s'apprennent pas. Et pourtant, en mathématiques, ils ont coutume de s'entendre. Mais c'est justement grâce à ce que j'ai appelé les vérifications. Elles jugent en dernier ressort, et devant elles, tout le monde s'incline. Mais là où ces vérifications font défaut, les mathématiciens ne sont pas plus avancés que de simples philosophes. Quand il s'agit de savoir si un théorème peut avoir un sens sans être vérifiable, qui pourra juger, puisque, par définition, on s'interdit de vérifier. On n'aurait plus de ressources que d'acculer son adversaire à une contradiction, mais l'expérience a été faite et elle n'a pas réussi. On a signalé beaucoup d'antinomies et le désaccord a subsisté. Personne n'a été convaincu. D'une contradiction, on peut toujours se tirer par un coup de pouce, je veux dire par un distinguo.